Donc, comme je l'avais expliqué dans une chronique qu'on avait diffusée il y a 2 ans maintenant, l'informatisation des véhicules européens s'est accélérée depuis 10 ans. Nous avons la chance d'avoir cette semaine un témoin privilégié de ce que sont actuellement les véhicules vendus en concession, mais aussi de ceux qui nous seront proposés à l'avenir. Nous recevons donc Jean-Noël Perle, acheteur de composants pour le service prototype de Continental Automotive, amateur de grands espaces, grand admirateur de Mustang dans leur milieu naturel. Gaël.
J'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière cette anecdote sur les Mustangs, mais
on en parlera plus tard. Oh, okay.
Ah, à mon avis, non, ce sera peut-être la fin de l'interview.
Oui, voilà.
Bon, en tout cas, effectivement, on va parler de l'informatisation croissante dans les véhicules. L'émission précédente, on parlait des oppositions à l'informatisation. L'automobile, c'est un secteur qui connaît ce phénomène comme les autres, peut-être plus que les autres. Jean-Noël, vous êtes... Tu es complètement dedans aussi depuis 36 ans, ingénieur électronicien à Continental Automotive à Toulouse. Mm-hmm. Tu as travaillé sur les premiers calculateurs de moteurs, si c'est bien
oui,
ça.
Oui, les calculateurs, ça a commencé dans 79 par là.
Alors justement...
Sur le Basso Combo.
Ok.
Tu connais là-bas
si, si, oui.
Donc, il n'y avait pas grand-chose comme usine au début.
Et
Motorola en face, c'est tout.
C'est cette année-là que l'informatisation dans les voitures.
C'est-à-dire que
commence.
Cette année-là que Renault français et Bendix américain ont créé une petite entité sur ce lieu-là. Pour développer ce qui était la première informatisation, c'est pas une informatisation, mais amélioration de l'allumage électronique.
Ok.
Donc pour pouvoir apporter une puissance d'allumage dans les moteurs et au bon moment surtout.
Parce que jusqu'à présent, tout était, jusqu'à cette date-là, tout était mécanique.
C'était mécanique, bien sûr.
Et
oui.
Du coup, il y avait quoi? Des pertes d'énergie, qu'est-ce
d'énergie,
qu'on voulait solutionner en fait?
Toi, t'as jamais eu des emmerdes de Delco. Hein.
Voilà.
De non, tête de Delco.
T'as, pas connu ça.
Parce que moi, je sais même pas la changer.
Je suis né pratiquement 10 ans après. Quoi. Donc, voilà.
Donc, c'était au papier de verre qu'on nettoyait pour améliorer le contact. Hein, quand
d'accord,
même.
Ok.
C'était archaïque. Hein.
Ok. Donc l'informatisation, ouais.
Cette petite informatisation, on va dire, qui avait un petit computer. Mais très léger, très, très fin, qui permettait de voir comment se comporte le moteur et d'allumer au bon moment, avec
d'accord.
la bonne énergie.
Donner
beaucoup d'énergie pour économiser le carburant et avoir surtout une rentabilité du moteur plus forte.
Mais donc c'est comment dire, c'est un élément du véhicule que le conducteur ne connaît pas, ne voit pas, il a limite même pas connaissance de ça en fait.
Non, il ne peut pas le voir ça.
D'accord. Et il n'y avait pas de publicité faite là-dessus non plus.
Non, parce que ça restait un petit peu obscur sous le capot moteur.
D'accord.
Donc, c'était que des spécialistes qui commençaient à connaître ça.
Et alors, à quel moment ça s'accélère? À quel moment l'informatisation commence à devenir...
Ça s'est accéléré lorsqu'on a voulu contrôler le moteur lui-même.
C'est-à-dire?
Non seulement l'allumage, ça c'était une chose, c'était un petit élément à part, mais contrôler le moteur, c'est-à-dire aller voir... comment se comporte le moteur, et lui donner la quantité d'essence et l'allumage au bon moment, la bonne quantité, au bon moment, pour optimiser le rendement du moteur.
D'accord, donc c'est par souci d'efficacité, en fait, qu'on informatise.
Voilà, tout à fait.
Okay.
Par la suite, c'est venu l'économie. Hein. Au début, c'était pas vraiment le terme, c'était donner un bon rendement, avoir un moteur qui avait la pêche, qui avait une bonne nervosité, et donc on n'hésitait pas à consommer à l'époque.
Ok. Et, le glorieux temps de...
Le glorieux temps des Trente Glorieuses.
Qui voilà, ça, le véhicule ou le conducteur?
On parlera que du véhicule, là.
D'accord. Et alors du coup, donc ça se concentre sur le moteur.
Oui.
À quel moment ça sort du moteur et ça gagne les autres parties, là, je sais pas moi,
un peu plus tard. Contrôle les roues, c'est assez récent quand même.
D'accord. Après le moteur.
C'est le moteur, ce qui en est venu à essayer de contrôler des essuie-glaces, du chauffage des vitres, etc. Donc du contrôle de ce qui est habitacle.
D'accord.
Okay. Donc là, il fallait recentrer un petit peu les relais, les boîtes à relais, et dire il pleut, bon, on va commencer à allumer l'essuie-glace, il fait nuit, on allume la lampe, etc. Donc,
automatiquement.
D'accord. Oui, okay. Donc ça. Et évidemment, ces paramètres-là sont en dialogue avec le contrôle moteur, qui est en même temps en dialogue avec la clé, par exemple, d'ouverture des portes.
Et ça, c'est quoi, années 90, début 2000?
Plutôt 90.
Okay. C'est né où? C'est français? C'est américain? C'est japonais?
Alors,
peut-être
le calculateur en injection, c'est un américain qui est venu avec son brevet.
D'accord.
Qui a donc été mon ingénieur pendant quelques temps. Il est venu avec ce brevet, avec un calculateur énorme, avec un gros radiateur. C'était vraiment une bête, un ancien Commodore de d'ordinateur. C'était énorme et qu'il n'y avait pas grand-chose dessus, quoi.
D'accord.
En fait, on faisait, il y avait une vingtaine d'entrées-sorties de petites pattes qui venaient prendre un signal sur le moteur, qui envoyaient un autre signal ailleurs, c'était tout. Mais ça tournait quand même.
Mais du coup, le secteur informatique et le secteur électronique et le secteur automobile sont grandissent ensemble, en fait.
Oui, complètement.
Les deux technologies
sont indissociables.
Okay.
Ça, mais d'autant plus qu'avec le temps est venue la miniaturisation de plus en plus.
Oui,
parce que les fonctions qui tenaient sur une carte, une feuille A4, par exemple, maintenant sont réduites à un post-it, quoi.
Oui, parce que
tout a été intégré.
J'ai une Volvo du début des années 70 californienne avec les premiers contrôles en fait de freinage, plus il y avait des relais un petit peu partout qui étaient regroupés pour le chauffage des sièges et trucs comme ça. Et ça prenait une place assez ça
énorme.
Prenait tout le dessous en fait du siège passager. Maintenant le volume est
largement réduit. Et la puissance d'ailleurs des calculateurs a augmenté également. Par exemple, les premiers donc, qu'on a développés vraiment à Toulouse, qu'on a mis en vente, le logiciel tenait sur 1 kilo-octet, sur 1022 octets plus précis. Il nous en restait 2 de libre.
Okay.
On ne savait pas quoi en faire.
Qu'est-ce qu'on met ?
Qu'est-ce qu'on met ? Bah, rien. Donc, on avait optimisé ça sur 1022 octets. Donc, et puis on a choisi, bon, c'était Intel à l'époque ou Motorola, donc on avait fait le logiciel pour l'un et pour l'autre, pour avoir 2 sources et pouvoir fabriquer ces calculateurs. Donc le logiciel faisait 1022 octets et la cartographie du moteur, c'est-à-dire en fonction du régime moteur, de la vitesse du véhicule, etc.,
les réglages
tenaient sur 256 octets uniquement. Et donc avec 35 entrées-sorties sur le calculateur.
Et maintenant
là, maintenant, on arrive à 196 entrées-sorties sur le calculateur, qui est plus petit, par rapport à l'autre qui n'en avait que 35. Et le logiciel fait 6 millions d'octets, 6 mégaoctets.
Ouais, c'est le bond qu'il y a dans tout le reste.
C'est un bond énorme.
Est-ce que tous les progrès de l'automobile sont liés à son informatisation ou c'est secondaire par rapport aux autres progrès ? Je sais pas, moi,
non, c'est lié avec d'autres progrès. La mécanique aussi a beaucoup évolué, et notamment les capteurs. Parce que pour faire de l'informatique, cœur de l'informatique, c'est d'aller chercher l'information. Mmh. Chercher l'information, c'est de trouver un capteur qui donne la bonne information. Donc plus on met de capteurs, plus il faut d'entrée-sortie sur le calculateur, d'où les 196, entre autres. Mais on vient chercher des informations dans le moteur, à l'extérieur du moteur, on vient chercher un peu partout pour essayer d'appréhender, comme un être humain appréhende par les yeux, les oreilles et les mains, l'environnement extérieur. On essaie d'appréhender tout cet environnement pour en faire quelque chose.
Okay.
Et donc optimiser maintenant de plus en plus, bien sûr, la consommation. Mais si on réduit la consommation, ça veut dire qu'on met moins d'essence. Donc le véhicule est moins nerveux. Donc le chauffeur qui veut un petit peu s'amuser sur son véhicule va être un petit peu...
Qui est de moins en moins possible.
Qui est de moins en moins possible, bien sûr. Mais c'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, on avait deux types de cartographie. Une pour 49 États, où il y avait vraiment la consommation avec véhicules nerveux, etc. Et la Californie, elle, c'est le 50e État, qui, lui, nécessitait une cartographie beaucoup plus faible.
D'accord. Oui, parce que la Californie...
Ils étaient déjà dans les années 80...
Oui, ils ont été très pionniers dès les années 60, d'ailleurs, sur les problèmes d'écologie.
Il y en a d'autres qui l'ont fait, bien sûr.
Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et justement, ils ont, du coup, c'est là où par exemple, justement, il y a... si je me trompe, c'est Toyota qui est en train de tester le moteur à hydrogène sur place, où il y a vraiment une incitation par l'État californien qui est assez impressionnante.
C'est très impressionnant. Toujours, ça a toujours été ça.
Qu'est-ce que ça a apporté aux constructeurs, ce phénomène ? Est-ce que ça a permis de réduire les coûts et d'augmenter la durée de vie des composants mécaniques, je ne sais pas, des moteurs ? Est-ce que ça leur a permis de vendre plus cher les véhicules, donc d'avoir un plus grand bénéfice ?
Grand débat là-dessus, bien entendu. Ça a permis d'optimiser pas mal de choses, d'avoir une crédibilité par rapport au public aussi maintenant. L'économie donc, de carburant, c'est énorme. Et l'écologie de la pollution, d'accord, qui entraîne évidemment d'autres éléments à mettre en place dans le véhicule, comme le filtre à particules, qui est derrière, je ne sais pas si vous en avez déjà changé, mais ce n'est pas souhaitable parce que c'est très cher.
Ok, donc on ne le change pas
Et si tu ne changes pas, tu as d'autres problèmes, mais bon, donc, il vaut mieux le changer, mais c'est très cher, effectivement. Okay. Donc, il y a du bien et du mal dans tout ça. Mmh. Bien entendu, il y a des choses qui génèrent d'autres choses qui ne sont pas forcément adaptées.
Et donc, nous sommes avec Jean-Noël Perrin, qui est acheteur de composants pour le service prototype de Continental Automotive et ingénieur électronicien.
Alors justement, ça nous permet de passer à la voiture aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture aujourd'hui qui est informatique en dehors du moteur? Là, on peut parler du GPS que tous les nouveaux véhicules ont.
Automatique, oui, bien sûr. C'est obligatoire.
Est-ce que c'est pratiquement des ordis sur roues, en fait,
oui,
des ordis qui roulent?
Ce sont des ordis. Il y a plusieurs ordis à l'intérieur, en fait.
Ah oui, tout à fait.
Et qui communiquent entre eux.
Ok. À quoi ils servent, ces différents ordis? Quels sont-ils?
On avait dit dans le moteur, ça c'est évident. Les ABS, donc chaque roue est pilotée. À l'intérieur des roues, il y a également la mesure de la pression des pneus, qui est remontée. Donc c'est simplement un petit calculateur, un petit élément très simple, qui envoie par signal radio la pression du pneu et la température.
Et sachant que c'est obligatoire maintenant pour les normes européennes depuis le début de cette année.
C'était obligatoire maintenant ?
Ouais.
Oui,
ouais.
Je pense. Parce que ça l'était depuis des années, depuis des années aux US. Maintenant c'est venu, donc c'est intéressant pour nous parce qu'on en fabrique 4 par véhicule, vous imaginez comme ça en fait.
Gros marché.
Gros marché. Et au Mirai, il y a donc plusieurs chaînes entièrement automatisées.
D'accord. Qui fabrique ça.
Il y a une seule personne qui contrôle la chaîne de A à Z.
Ok.
Et ça jusqu'à l'emballage complet, dans les cartons et ça part.
Et ça en produit combien par jour, par mois?
On fabrique 10 millions par an, je crois, un truc comme ça.
Ok.
Oui, c'est vrai que le monde de l'automobile, c'est des chiffres très importants.
Ok.
Donc, les calculateurs, il y a d'autres. Donc, il y a les pneus qui envoient les signaux, qui sont récupérés par un calculateur qui est le même dans le temps où on faisait simplement que mettre en route les essuie-glaces. Mmh. Donc, maintenant, on fait aussi la mesure du pneu et on indique au chauffeur si le pneu est sous-gonflé, voire surgonflé.
Qu'est-ce qui reste de pas encore informatisé dans une voiture?
Le
moelleux du siège?
Parce qu'on a informatisé aussi la position du chauffeur, plusieurs chauffeurs. On mémorise le réglage.
Tu oublies que t'as des sièges massants maintenant. Deux séries dans les Rolls.
Pas sur la mienne.
Mais pas sur le chauffeur, je pense, non.
Alors du coup, qu'est-ce qui reste?
On peut toujours inventer des tas de choses, ce qui vous vient à l'esprit.
Qu'est-ce qui sera informatisé?
Il y a tout ce qui est l'entertainment, forcément, qui est de plus en plus. Donc, le lecteur non plus de DVD, mais le lecteur MP3 ou n'importe quoi, MP4.
Des écrans à l'arrière.
On peut imaginer effectivement l'intérieur de la communication, avoir de la presse dans le monde.
Une connexion internet par
Wi-Fi évidemment. Ou par 4G, pas 3G, c'est pas suffisant. Donc 4G, vous visualisez des films, etc. Donc ça vient, forcément.
Tous ces capteurs, ordinateurs, ils génèrent plein de données. Elles ne servent pas forcément qu'à conduire. J'imagine qu'elles sont analysées aussi pour...
Ils s'auto-analysent. Le calculateur moteur demande des informations, par exemple, à la boîte de vitesse automatique. Il demande des informations à l'ABS, il demande des informations aussi aux pneus. Et tout cela dialogue entre eux.
Est-ce que ça reste dans la voiture ou c'est ça ressort pas et c'est pas analysé par les constructeurs pour voir comment se comportent leurs milliers de véhicules?
Effectivement, les calculateurs principaux ont en mémoire la vie un petit peu de ce qui se passe sur le véhicule. C'est-à-dire qu'on mémorise par moment, il peut y avoir des pannes aléatoires qui se produisent pendant une microseconde ou deux microsecondes, etc. Très courtes. Et ces informations sont mémorisées dans les calculateurs. Ce qui vient que le garagiste vient et plug un appareil spécifique, qui d'ailleurs a été développé sur Toulouse à Bourville.
D'accord.
Donc, entre autres. Et ils viennent charger les informations qui sont restées mémorisées dans le calculateur. Et ces informations sont effectivement analysées pour permettre au garagiste de trouver, s'il y a une panne aléatoire, de dire, bon, il faut aller dans ce secteur.
Okay. Donc
ce n'est pas exhaustif, bien sûr.
C'est un outil d'analyse de dump, de dump d'erreurs et donc de voir quelles sont les erreurs qui reviennent le plus souvent et variables.
Oui, c'est prédictif. Ça permet justement de dire bon, il faut changer cet élément parce que là, il commence à être défaillant.
Est-ce que dans 1, 2, 3, 4 ans, je ne sais pas quel délai, il pourrait y avoir de la transmission du contrôle en direct des comportements des véhicules via tous ces capteurs et tout.
Bah oui, on peut très bien envoyer, on pourrait très bien le faire, c'est une question du coût, c'est tout.
Est-ce que c'est ce qui se profile ou pas du tout?
Ça parce peut se profiler. Il avait été question dans pas mal de revues d'envoyer toutes ces informations sur un central qui permet de mémoriser pour dire tel véhicule, le propriétaire doit le ramener pour faire un contrôle de vidange, contrôle d'analyse, etc.
D'accord.
À partir du moment où on a des capteurs placés partout, comme j'ai dit tout à l'heure, les capteurs sont très importants, ils sont placés un peu partout dans le véhicule, donc ces informations remontent, et avec ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, il y a plein de choses à faire.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on dit, donc ça permet de contrôler, de sécuriser, d'améliorer la conduite, mais quelque part, ça enlève de l'autonomie au conducteur, au pilote, qui est presque plus qu'un passager de plus en plus de son véhicule.
Effectivement, et ça déresponsabilise.
C'est l'objectif des constructeurs
C'est pas l'objectif. C'est l'objectif des constructeurs, à mon avis, c'est quand même d'augmenter la sécurité dans les véhicules, pour la protection des passagers. Ça, c'est la première. C'est vraiment un topic énorme là-dessus.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'il y a des caméras, etc., de reconnaissance de personnel qui passe, personnes qui passent, etc., ou de chiens, ou n'importe quoi, ou de feux rouges, ou de panneaux de limitation de vitesse pour dire au chauffeur, attention, tu roules trop vite, réduis ta vitesse, etc. Après, pour l'instant, il y a encore le chauffeur décide. S'il veut rouler à 90 sur une roule à 60, il prend ses responsabilités dans ce cas-là.
Oui, oui, oui. Encore aujourd'hui,
Encore aujourd'hui. Peut-être dans le futur, effectivement, on freinera le véhicule pour dire non, tu ne vas pas passer au-dessus de 60. Point à la ligne.
Mais c'est quand même extrêmement intéressant parce que justement, en faisant les recherches pour cette émission, j'ai découvert qu'en fait, que RCA avait conçu en fait, une autoroute intelligente à la fin des années 50. Et qu'à la fin des années 50, ils avaient déjà imaginé une voiture totalement autonome qui se calait en fait sur la voiture suivante, qui était capable de pour la distance de sécurité et tout.
Oui, ça existe, effectivement.
Et bon, ça demandait une forte infrastructure puisqu'il fallait passer un câble dans la route de lecture.
Un câble sur le long de l'autoroute pour qu'il y ait une communication entre le véhicule et le câble.
Mais en fait, c'est extrêmement vieux et en plus, on était en dehors de l'informatique. Oui. C'était purement de l'automatisme électronique.
Oui, c'était l'automatisme de base. Mais ça demandait la mise en place de pas mal de choses. Qui fait que c'était risqué, quoi. C'est risqué parce que c'était pas très fiable. Très d'animation.
On est en train d'enregistrer effectivement chez Equito et c'est la période des bisutages. Donc il y a des bisus qui passent en gilet de sauvetage derrière la barrière de sécurité. Et je ne sais pas qui joue le rôle du triangle ou qui joue du triangle ce soir. Donc voilà, avec mon casque effectivement qui est un petit peu visible.
Légèrement, très discrète.
Justement, sur ces. Là, il y avait une volonté des constructeurs, il y a une somme phénoménale qui a été placée.
Oui.
Et d'un autre côté, ça veut dire quand même que l'ensemble des constructeurs se met d'accord pour se lancer dessus, puisqu'il y a des standards réels.
Mais de fait, parce que si un constructeur décide de mettre le GPS sur son véhicule, forcément les autres sont obligés de suivre.
Est-ce qu'il y a sinon,
ils prennent une part du marché et ils sont plus sur le marché.
Est-ce qu'il y a des constructeurs qui refusent, remettent en cause cette informatisation et disent tiens, on va faire un véhicule tout en bois, tout en mécanique comme à l'ancienne?
Ce serait joli.
Ça serait joli, ça n'existe pas.
Ce sont très belles les voitures des
siècles. Oui, c'est pour ça que j'en ai croisé sur la route.
Il faut quand même, Gaël, je vais quand même rompre le charme et ses idées. Mais tu te rends compte que même Rolls-Royce, ils considèrent que la voiture n'est plus conduite par un chauffeur. Il est conduit par un propriétaire.
Oui, voilà.
Ça fait 10 ans quand même qu'ils ont changé de mode de pensée.
Et qu'est-ce que ça change, ça? Qu'est-ce que ça change?
Des fois, le propriétaire a envie d'appuyer sur la pédale.
Oui, voilà. Il ne respecte pas de règles.
Mais du coup, cette question de freiner l'informatisation, est-ce que ça existe?
Il y a eu un certain constructeur allemand qui s'était rendu compte qu'il y avait trop de calculateurs. Peut-être à l'époque, ils n'étaient pas suffisamment performants, mais il y avait des problèmes de communication entre tous les systèmes.
Ça posait
des problèmes de communication. Parce que trop lent, peut-être, à l'époque, etc. Donc, ce n'était pas encore...
Ce n'était pas au point.
Donc, ils étaient un petit peu revenus en arrière. Mais bon, forcément, tout évolue. Et donc, les microprocesseurs évoluent. Ce n'était pas ferme, non, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des limites quand même à l'informatisation, à part juste c'est pas assez rapide et c'est pas assez fiable?
La limite, c'est la fiabilité, bien sûr, tu l'as dit, en premier, la fiabilité, la communication à très haute vitesse, donc avec des bus spécifiques. comme le Wi-Fi, pas Wi-Fi, mais ça peut être le Wi-Fi aussi, hein, bien sûr, mais attention aussi à la sécurité, la pollution externe, la sensibilité aux hyperfréquences, etc.
Mais ça, c'est de la capacité technique ou technologique, je veux dire, c'est quelque chose qu'on résoudra dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des limites, je sais pas, d'usage ou des choses qu'on peut vraiment pas faire pour X raisons, est-ce qu'il y a des choses qui devront ne pas être informatisées ou non?
Non, je pense que tout est...
L'invité vient de faire une grosse moue, là.
Je pense qu'il n'y a pas de limite à la pensée, quoi. La pensée, elle est créatrice. Donc, tu peux automatiquement imaginer ce que tu veux.
Donc, c'est
ce que je disais, c'est que tout dépend de ce qu'on en fait après. C'est là qu'est le couac.
D'un autre côté, on parlait tout à l'heure qu'il y avait, c'est vrai, à une époque, beaucoup de modules électroniques. Donc, il y avait un fabricant BMW, si je me trompe, qui voulait.
Tu me feras pas dire qui c'est.
Qui voulait limiter. C'est vrai que le nombre de systèmes informatiques embarqués qui étaient dans une voiture, qui étaient des systèmes d'exploitation différents, qui donc étaient construits par des équipes différentes, soi-disant qui communiquaient par un standard qui était commun. Et en fait, il y avait un manque d'intégration. Maintenant, on arrive de plus en plus à assembler tout le boîtier.
Il y a une standardisation déjà des communications qui fait qu'on peut mélanger des produits qui viennent de chez l'un et chez l'autre parce que le constructeur demande à avoir des règles de communication bien définies. Comme le Wi-Fi 10, machin, là, et forcément, il est défini d'une certaine façon. Et tout le Wi-Fi marche pareil. Donc là, c'est pareil, la communication entre éléments. Ils sont obligés parce qu'un constructeur qui fabrique une voiture ne peut pas monter un élément venant de chez un seul sous-traitant. Il faut qu'il y ait au moins deux ou trois sources.
Pour
pas faire une rupture de chaîne de fabrication. Parce que si nous, par exemple, on ne peut plus fournir le calculateur de nos moteurs, il faut qu'un concurrent, hélas, un confrère, on va dire, plutôt qu'un concurrent, soyons sympas, politiquement sympas, et donc il faut que le confrère puisse fournir le constructeur pour qu'il puisse livrer ses véhicules.
Qui domine la scène? Alors, d'une part, au niveau des constructeurs, qui est le plus en avance sur l'informatisation des véhicules, et au niveau des fabricants informatiques, qui est le mieux placé? Alors, peut-être que là, du coup, c'est un peu plus difficile pour toi d'être
objectif.
D'être objectif, mais on va parler en termes de pays, pas en termes de peut-être de marque.
Alors, c'est clair que le Japon est très en avance là-dessus.
Très en avance. Pour la construction et pour
construction, pour l'innovation, pour la. Vraiment la technologie.
Ok. Et
mais on n'est pas à la traîne, hein, attention. Hein.
Et en queue de peloton, quoi, c'est quoi? C'est les véhicules chinois, les véhicules au contraire, je sais pas.
Ils rattrapent bien. Ils rattrapent bien, tout à fait.
Ok.
Les Coréens sont très bien placés aussi.
Vous écoutez Radio Éphémère CPU avec Jean-Noël Perle, qui est donc acheteur au service prototype chez Continental Automotive, qui est ingénieur électronicien.
Était. Parce que mon diplôme, il est vieux quand même. Il est plus à jour.
Juste une question, t'as eu ton permis quand?
Oh là, bah, 18 ans et un mois.
C'est question. Ah ouais, il vieillit ton permis?
Non, vraiment, moi, oui, mais pas. Si le permis vieillit, oui, parce qu'il est très vieux.
Oui. Back to business, avec mon superbe accent.
Non, c'est bon, mon départ pour les US.
Tu profites que Chris ne soit pas là.
Non, en fait, la dernière partie de cette émission, c'était un peu sur Elom dans tout ça, quoi. L'informatique automobile, à quoi ça pourrait se comparer? À un modèle genre Linux ouvert où tout le monde peut, qui est libre, à du Windows où on est entre les deux, ou avec plein de bugs, etc. Ou à carrément du Mac fermé dans lequel on peut vraiment pas mettre le doigt, quoi.
Bah, à la limite, si on veut le comparer, on peut le comparer à un Mac fermé, oui, bien sûr. C'est, l'objectif aussi, c'est que personne ne rentre et vienne modifier des valeurs à l'intérieur, à la fois du software et à la fois de la calibration du véhicule.
Est-ce que ça se fait pour autant? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à bidouiller un peu?
Alors, sur les derniers modèles, je ne sais pas, parce que, mais je sais qu'il y a quelques années, sur les premiers calculateurs, effectivement, c'était plus facile. Donc, les gens arrivaient à modifier les calculateurs pour rendre les véhicules plus
puissants.
Plus puissants.
D'accord.
Mais donc, plus nerveux, quoi. Oui.
Mais là, il faut être ingénieur, quoi.
Oui, il faut faire informaticien. Oui, informaticien.
Parce qu'un informaticien, je veux dire, un bidouilleur informatique, il peut apprendre par lui-même. Voilà,
il peut y arriver, lui.
Des hackers de 14 ans, et ils n'ont pas fait des études en mécanique. C'est pas que tu as 14 ans.
Non, mais c'est plus de la mécanique, là. On touche plus à la mécanique. Oui, mais c'est purement de l'informatique.
Mais un informaticien de 14 ans, ado, en mettant les mains lui-même dans le cambouis, il peut y arriver. Est-ce que ça, c'est possible?
Maintenant, il faut des moyens, quoi. Il faut des moyens informatiques pour pouvoir le faire. C'est un peu plus dur.
D'un autre côté, ce verrouillage informatique, on en vient à des trucs qui pour moi me semblent complètement aberrants. Par exemple, Tesla, dans le Model S, ils vendent deux autonomies différentes de avec le même véhicule. C'est exactement le même véhicule. C'est juste un logiciel qui autorise une capacité supplémentaire sur la batterie. Et donc en fait, ils ont appliqué ce qui existait dans le jeu. Ce qui existait dans le jeu vidéo, ce qu'on appelle le DLC, où en fait on achète une capacité qui est déjà présente dans le logiciel qu'on a
et qui est
bridée à partir de là. Mmh. Ça veut dire dans ce cas-là que comme pour l'informatique ou ses smartphones, on n'est plus propriétaire, on devient usager, pratiquement locataire du véhicule.
Dans quel sens tu le vois ? Comment ça, locataire de véhicule ?
C'est-à-dire que justement, on a plus la totale capacité d'intervention sur le véhicule.
Tu ne peux pas l'avoir. Dans ce domaine-là, non, c'est trop risqué. Mmh. Il ne prendrait pas le risque de laisser le lambda toucher l'intérieur d'un calculateur. Mmh. Ça ne peut pas permettre de façon pénale.
Est-ce que ça voudrait dire, pour reprendre l'exemple du DLC, c'est qu'en gros, on achèterait un véhicule et après, on achèterait des capacités sur ce véhicule pour l'améliorer. C'est ça que tu...
c'est ce qu'il veut dire. Oui, mais...
Enfin, t'améliores pas, tu déplombes. Hein.
Oui, tu déplombes, mais ça, c'est pas possible, ça. C'est interdit.
D'accord.
Non, parce que le véhicule, lorsqu'il est vendu, il est vendu pour une certaine norme de pollution qui doit être respectée par le logiciel qui est dedans. Mmh. Donc là, celui-là, on peut plus y toucher, quoi. Mmh.
Bon, mais par contre,
il y a quand même une chose qui est intérieure, qui fonctionne, peu de gens le savent, c'est que dans les calculateurs maintenant, la quantité d'essence ou de gasoil est injectée dans le moteur. Ces injecteurs sont spécifiques et ces injecteurs, avec le temps, varient, donc s'usent. À l'intérieur du calculateur, il y a prévu une stratégie, justement, de prise en compte de l'usure de ces injecteurs. Donc, on vient mesurer à un certain moment, quand la voiture est stabilisée sur autoroute ou un truc comme ça, le calculateur reconnaît une certaine forme de profil de conduite, il envoie des petits signaux au calculateur, il mesure la réponse du moteur. Il envoie des petites quantités d'essence et il mesure la réponse du moteur. Et en fonction de cette réponse du moteur, il sait que lui, il l'a ouvert pendant un X temps, quelques millisecondes, on parle de millisecondes, il l'a ouvert pendant ça et le moteur doit faire telle réponse. S'il ne le fait pas, c'est que il y a trop d'essence, donc il a vieilli, ou il y a trop peu.
Mmh. Donc, dans ce cas-là, il alerte. Plus.
Donc, il n'alerte pas. Il modifie sa propre cartographie pour augmenter ou diminuer.
Il y a vraiment une stratégie temps réel de recalibrage.
Recalibrage avec le temps, oui.
Ah, c'est impressionnant.
Oui, parce que les injecteurs suivent, c'est de la mécanique.
Mmh. Ok. Et est-ce qu'on peut encore réparer soi-même son véhicule, ou maintenant il faut vraiment aller chez un concessionnaire et...
Quand même s'y connaître bien.
Ouais.
On voit la partie qui est purement mécanique, oui, ça peut se faire, bien entendu.
Mais est-ce qu'elle se réduit du coup ?
La partie électronique, elle se réduit un peu. J'ai un ami qui est à mon âge aussi, qui est garagiste, et donc il a fait souvent appel à moi pour me dire qu'est-ce qui est en panne, c'est de l'électronique ou c'est de la mécanique ? Ils ont du mal.
Les mécaniciens aujourd'hui se...
Du mal, bon, là maintenant, ils sont obligés, les mécaniciens, de s'équiper de valises de tests, et tout fabricant. Voilà,
d'accord.
Énormément de véhicules, de types de moteurs.
Avec des standards différents.
Standards différents. Donc il faut qu'ils s'équipent de tout ça. Et c'est un investissement en coût énorme pour eux, pour pouvoir dépanner toutes sortes de véhicules.
Et est-ce qu'il y a des harmonisations des standards en cours ? Non.
Difficile entre différents constructeurs. Chacun veut la sienne et puis il dit touche pas, c'est à moi.
Ce que l'on voit arriver de plus en plus, ça vient des États-Unis, c'est que les véhicules maintenant sont carrément communicants, sont carrément avec un abonnement mobile pour que le constructeur ait une communication directe avec le véhicule. Oui. Notamment le système OnStar de General Motors, qui est commercialisé chez Opel, où il y a un bouton d'alerte et on tombe avec un central téléphonique et les types, ils prennent la main sur le véhicule, vraiment, donc à distance, c'est du remote access. On va vers une nouvelle gamme de services là-dessus, c'est clair. Pourquoi pas aller vers de la conciergerie ? Et d'ailleurs, je crois même que les véhicules haut de gamme allemands qui ont ce genre de système proposent carrément une conciergerie. Donc on peut...
C'est-à-dire de la conciergerie
veut dire je viens de pécho une fille, elle est trop bonne. C'est quoi dans la prochaine ville le sushi le plus intéressant ?
Voilà.
Parce qu'il aime le tuning.
Voilà.
Okay. D'accord. Okay.
Mais néanmoins, on peut effectivement prévoir pas mal de choses, de remontées d'informations qui sont traitées et dans le, pour aider le conducteur.
Mais alors, tu parlais de prise de contrôle à distance, Xavier, d'un véhicule. On parle donc beaucoup d'ordinateurs, de connexion Internet. Quid du piratage? Là, il y a une Tesla qui a été piratée par des informaticiens chinois.
Qui ont montré le proof of concept. Donc, aujourd'hui, au moment où on enregistre donc, le 20 septembre, ça a été aussi le cas sur OneStar. Au moment où ils l'ont lancé en Europe, justement, il y avait une démonstration que c'était très facilement piratable aux États-Unis, puisque donc c'était un contrat chez un opérateur, donc il fallait choper les bons numéros de téléphone et savoir que c'était à telle adresse. Et on pouvait bloquer les freins, mettre l'accélération à fond, verrouiller le véhicule. Une démonstration, le journaliste de Wired, en vidéo, il est là, il a les chocottes,
mettre le volume de l'autoradio à fond.
Voilà.
Si on arrive à un système, c'est un hacker.
Et General Motors dit non, pas de souci. D'ailleurs, on le vend en Europe. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une responsabilité des constructeurs là-dessus, ou on reste dans l'informatique industrielle?
Je pense que les hackers ont fait exprès de montrer que tout le système n'est pas inviolable quelque part. Donc il faut augmenter cette sécurité-là.
Mais c'est un des problèmes, des enjeux majeurs là aujourd'hui.
Ça va être un enjeu majeur à tel point que pour le véhicule autonome, j'ai vu ça dans une revue là, Obama a demandé à tous les constructeurs de suivre une douzaine de règles qu'il est en train de définir pour une transparence entre le gouvernement et les constructeurs, pour mettre en place justement ce véhicule autonome, parce que tu as vu Tesla, les soucis qu'ils ont eus. Donc maintenant, pour les futurs véhicules, il va falloir mettre quelque chose d'un peu plus formel et strict.
Ok, mais on arrivera, ça va être toujours...
C'est comme toute découverte, on essuie les plâtres au début, ça évolue.
Il y a toujours des petits malins pour savoir contourner les barrières. À la limite, est-ce qu'on ne rend pas plus vulnérable la voiture avec l'informatisation du coup? Avant, on ne pouvait pas contrôler une voiture à distance.
Ah non, c'est une de chevaux, mal à contrôler à distance, sinon tu la pousses.
Et du coup
par l'informatif, fait que tu peux rentrer de façon plus clean, on va dire.
Donc retour à la 4L.
Retour à la 4L, c'est bien. Les lâchez pas, gardez-les si vous en avez une.
Obama a annoncé, effectivement, tu l'as abordé rapidement le sujet, mais je crois que c'est cette semaine en plus que les règles sont vraiment sorties aux États-Unis sur le véhicule autonome. Donc ça, on va y aller, etc. Il reste toujours, comme je l'ai dit en intro, la responsabilité. Est-elle celle du constructeur ou du conducteur?
Ça fait partie d'un des grands problèmes. Qui est responsable en cas de crash? Voilà, tout est ouvert.
C'est au législateur de décider.
Voilà, tout à fait. Ça va être très difficile, je pense.
Petite question, mais qui est plus sur l'usage. En fait, on a vendu la voiture comme synonyme de liberté, aller où vous voulez, contrôler. Enfin, c'était vraiment l'argument de vente, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est pour ça que les publicités sont toujours dans des grands déserts.
Non, c'est parce qu'on avait...
effectivement.
Parce que depuis 92, on n'a plus le droit. Il aura la femme.
Quoi?
C'était sexiste. On n'a plus le droit de dire qu'il peut draguer une...
Non. Mais par contre, des grands espaces.
Voilà, en tout cas, c'est l'esprit de la liberté, quoi. Oui, l'esprit qui modèle...
De se décharger sur le véhicule des tâches subalternes, de surveiller la route, de faire attention, bien tourner, d'être bien à droite, etc. Donc, se faire aider par le véhicule.
Et ça va rester ou ça va changer du fait de cette perte de contrôle et peut-être.
À mon avis, ça devrait augmenter ça.
Augmenter le côté liberté.
Ça peut augmenter le côté liberté, effectivement, en déresponsabilisant le chauffeur. Donc là, il y a un juste milieu à trouver.
Et du coup, on passe d'une notion de vous êtes libre d'aller où vous voulez à vous êtes libre de le faire dans toute sécurité.
Voilà, c'est plutôt l'argument. Le plaisir d'être en sécurité, dire bon, si je ferme les yeux, bon, c'est pas grave, le véhicule va réagir pour moi. Mais bon, soyons vigilants.
Mais c'est un changement de philosophie pour l'automobile.
Pour l'automobile, tout à fait, forcément. Le concept de conduire différemment. Oui.
Alors, je vais faire un outing quand même de l'invité. Jean-Noël, je sais que tu es un grand fan des États-Unis, que c'est un pays que tu aimes voyager. Je suppose que... Oh, bah attends, ok.
Ça, il va nous faire le... Ah, il y a ça aussi, oui.
Oui. Non, c'est le générique d'une vieille série des années 80 qui s'appelait Le Juge et le Pilote. On remonte.
La prochaine fois, vous me direz, je viendrai pas.
Du coup, donc, tu vas aux États-Unis, je suppose que tu loues un véhicule quand même pour en profiter.
Bien sûr, vitesse automatique.
Alors, sur les véhicules que tu testes, justement, par rapport aux véhicules que tu peux conduire en Europe, qu'est-ce qui te manque et en même temps, qu'est-ce que tu dis, ah ben, un jour ça va arriver en France?
Ben, c'est sûr que la conduite aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en France, ça c'est clair. Les véhicules, c'est 90-95% de véhicules entièrement automatiques, en boîte de vitesse automatique, je parle. Alors qu'en France, boîte de vitesse automatique, c'est 10% du marché peut-être, c'est très peu. Les gens aiment bien conduire en changeant les vitesses.
Avoir
le contrôle et puis s'amuser, quoi, quelque part.
Non, moi je conduis en cinquième.
Par contre, vous avez, vous avez une autoroute qui fait 200 à 500 km en ligne droite. Bon, changer les vitesses, aucun intérêt.
Oui, tout à fait. Oui.
Et appuyer sur l'accélérateur, aucun intérêt. Donc il vaut mieux un cruise control qui vous libère de tout ça en tenant juste le volant.
Oui.
Donc c'est quand même un agrément et de profiter du paysage.
Bon, le mot de la fin du coup.
On the road again.
Avec son ordinateur.
Jean-Noël, merci beaucoup. Bonne
merci
route.
À vous deux.
Est-ce que ceux qui seraient intéressés justement par ce métier, puisque tu es dans le prototypage et tout ça, il y a des opportunités de carrière où il y a des choses qui sont à regarder. Je ne sais pas, auprès des toolkits commercialisés par Google ou Apple ou ce genre de choses.
Ben sur le site Continental, il y a des offres d'embauche. Il y en a, quand même, oui.
Ah, bien des, d'accord.
Quand je serai à la retraite, il y aura une place.
Bon, merci, Jean-Noël.
Merci
à vous deux.